Ben bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je suis Pierre-Louis de l'association Le Dorothy et avec Pierre-Yves de l'association Confrontation. On est deux assos du coup à vous convier ce soir pour une conférence. Pierre-Yves va présenter les invités dans un instant. Je vais vous dire quelques mots sur le café Dorothy pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc, ben, bienvenue tout d'abord au Dorothy. Donc, on est un café solidaire qui existe depuis un peu plus de 5 ans. Voilà, dans le 20e arrondissement, vous êtes déjà là. Et donc c'est un café qui a été créé par des chrétiens, qui est aujourd'hui géré par des chrétiens et ouvert à tous. Nos activités sont diverses, on a coutume de les regrouper en trois piliers, quand on présente le lieu. Donc le premier, c'est un pilier social. En fait, on est un lieu qui est ouvert quasiment toutes les après-midi de la semaine, sauf le lundi, pour accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient venir prendre un café, avec une attention particulière aux personnes plus fragiles. Comme on est un café solidaire, voilà, on peut venir s'asseoir, se reposer, sans nécessairement consommer. Et donc on a des bénévoles qui se relaient pour tenir le café en semaine. On a un deuxième pilier qui est le pilier intellectuel et artistique, celui auquel vous participez d'une certaine façon aujourd'hui. On organise des cycles de conférences. On a également en fait une vie artistique parce que on loue en fait, là on voit pas d'ici, mais on loue une bonne partie des locaux qui sont derrière à des artistes qui sont ici en résidence et donc avec lesquels on essaie de créer des ponts pour que le lieu soit pas uniquement voilà, il y a aussi cette résonance artistique qui fasse vivre le Dorothy. Et pour terminer, on a aussi un pilier manuel. Tout au fond, on a un grand atelier où on peut travailler le bois, où on peut apprendre à se former à l'électricité, à la plomberie. En fait, on a un salarié, Pascal, qui n'est pas là ce soir, qui ne travaille pas le soir, et qui a des mains d'or, en fait, et qui propose des formations qui sont ouvertes aussi aux personnes du quartier ou même de Paris qui veulent venir se former à un prix assez modique. Et puis, le samedi matin, l'atelier est ouvert aux personnes qui souhaitent bricoler en ayant l'appui de Pascal. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir pour ce cycle de conférences, peut-être Pierre-Yves va reprendre, mais dédié à la Bible, et ce soir sur la nouveauté de la Bible. Pierre-Yves, je vous laisse.
Voilà, donc Pierre-Yves Le Priol, membre du groupe Confrontation, donc on est très heureux de cette collaboration avec les membres du Café Dorothée. Donc vous l'avez compris, c'est quand même un petit peu deux générations qui se rencontrent, hein. Ils sont plus jeunes que nous, ils ont l'âge d'être nos enfants très souvent, hein. À Confrontation on est un peu plus âgés, association des intellectuels catholiques, mais donc on est content d'inaugurer ce soir cette forme de collaboration et de vous faire découvrir au-delà de ce qui va se dire et qui sera certainement intéressant, également donc ce lieu de vie où il se passe beaucoup de choses et où toute une sensibilité d'église s'exprime, vit, partage depuis maintenant 5 ans. Donc je dirais, en vous étant déplacé jusqu'ici depuis des quartiers peut-être de Paris un peu plus éloignés pour certains d'entre vous, vous allez, j'espère, à la fois nourrir votre réflexion et puis en même temps découvrir un lieu intéressant et dont vous avez certainement déjà entendu parler dans les médias, notamment Cato, etc., régulièrement. Voilà, donc on inaugure ce soir donc, le cycle de 3 soirées sur la Bible. Première soirée, donc, aujourd'hui, la deuxième aura lieu le 29 février, le jeudi 29 février, la troisième le jeudi 21 mars. Alors c'est vrai que pour les amis de Confrontation, on s'est un peu plié aussi aux habitudes de nos hôtes qui se réunissent plutôt le jeudi, alors que nous on se voyait plutôt le mercredi, mais on l'a fait très volontiers, on se réunissait plutôt à 19h, mais eux c'était plutôt 20h, donc on est heureux de s'adapter un petit peu, puisqu'on est chez eux, dans ce très beau lieu, dans une espèce de café-cabaret, n'est-ce pas, voilà. On est très heureux de s'adapter à eux, et donc d'avoir ces 3 conférences prévues durant donc, les 3 jeudis que je viens de nommer, de janvier, de février et de mars, autour de la Bible. Voilà. Donc on est parti du constat que plusieurs d'entre nous disaient la recherche sur la Bible a beaucoup avancé depuis 10 ans, 20 ans, depuis le Concile, l'archéologie, l'exégèse. Ce serait peut-être bien de faire un peu une réflexion sur et de faire un peu le point sur toute cette évolution des sciences bibliques. Et voilà pourquoi on a constitué un petit groupe pour réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place. Et donc voilà les 3 thèmes qu'on a arrêtés. Donc on ne va pas être exhaustif, mais on a choisi de porter l'accent sur trois sujets qui nous intéressaient et que le Café Dorothy a également approuvé. Donc, le premier thème ce soir, la Bible, une nouveauté radicale, point d'interrogation. Peut-être d'ailleurs que nos deux intervenants n'en veulent pas forcément dire la même chose. Deuxième soirée, la Bible et les crises de notre temps. L'histoire de la Bible, la narration de la Bible, c'est une succession de crises, parfois pas toujours surmontées. Est-ce que la lecture de la Bible peut nous aider aussi, nous, à traverser les temps de crise que nous vivons et que nous allons vivre peut-être de plus en plus dans les temps qui viennent? Et puis enfin, la Bible comme, je dirais, garde-fou contre la tentation des fondamentalismes. On voit bien aujourd'hui que, y compris dans certains cercles bibliques, on revient vers une lecture trop fondamentaliste des textes originels. Comment s'en prémunir et en quoi la Bible peut précisément nous prémunir contre ça? Donc ce soir, première soirée, la Bible, une nouveauté radicale, point d'interrogation. Est-ce que vraiment ce qui s'est passé lorsque ce texte a été écrit dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, est-ce qu'il nous annonçait quelque chose de radicalement nouveau? Est-ce que l'alliance d'un Dieu avec les hommes était vraiment quelque chose de nouveau? Non seulement un Dieu unique, mais un Dieu sauveur, un Dieu qui s'intéressait non plus aux rois et aux puissants, mais aux humbles et aux victimes. Est-ce qu'il y a là ou pas quelque chose de fondamentalement radical, ou bien est-ce qu'il y avait déjà des amorces, des choses ressemblantes, des promesses qui existaient de cette spécificité biblique dans les civilisations du Moyen-Orient qui l'entouraient? Voilà, donc on a deux experts qu'on est très heureux d'accueillir pour nous parler de ce sujet. D'abord, donc, Françoise Briquel-Chatonnet, qui a écrit, je vais en dire un petit mot tout de suite, parce que c'est elle qui va parler tout d'abord, qui a écrit plusieurs livres, mais notamment un livre qui nous a servi pour préparer la soirée, Le Temps de la Bible, qui est sorti maintenant il y a quelques années, et qui est vraiment accessible pour 10 euros en collection folio, et dont je vous recommande la lecture. Il y a d'ailleurs quelques exemplaires qui seront ici en vente, si vous le voulez. Et puis un autre livre, dont elle, historienne catholique, et Jacob Rogozinski, lui, il arrive d'un autre horizon, donc la tradition juive, professeur de philosophie, et on l'a invité parce qu'il a écrit un livre qui nous a aussi beaucoup plu, même si il tient à l'estomac, pour le lire, il faut avoir le crayon en main et y entrer avec un peu d'effort, mais extrêmement intéressant. Ce livre s'appelle donc Moïse l'émancipé. Moïse l'émancipé. L'insurgé. Moïse l'insurgé. Moïse l'insurgé. Vous parlez de la foi émancipatrice, mais c'est Moïse l'insurgé. Voilà. Donc, tous les deux vont nous parler successivement pendant 20 minutes. Ils vont essayer de répondre à cette question que nous posons. La Bible, une nouveauté radicale. D'abord, Françoise Briquel-Chatonnet, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Elle nous disait tout à l'heure à table, on a eu une conversation sympathique pour préparer la soirée, qu'elle a écrit sa thèse sur les Vénitiens
Les Phéniciens,
oui. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Les Phéniciens.
Les Phéniciens. Ah, je suis ému. Les Phéniciens et les peuples de la Bible.
C'est à cause de Phénicie.
Voilà, la Phénicie de Venise. Voilà. Les Phéniciens et donc les peuples de la Bible. Et puis elle a aussi écrit pas mal, et elle me dit qu'elle le fait toujours, sur la tradition chrétienne des Syriaques, notamment. Bon, voilà. Et puis donc ce livre, Le Temps de la Bible. Et lorsque j'avais parlé avec elle au téléphone l'autre jour, elle m'avait dit, vous savez, oui, certainement, la Bible, une nouveauté radicale, mais peut-être, enfin, elle l'écrit, malgré tout, ce petit peuple juif au pays de Canaan ressemblait quand même beaucoup, sur bien des points, au peuple du Moyen-Orient, du Moyen-Orient qui l'environnait. Voilà, donc alors, est-ce qu'il y a vraiment dans le message biblique porté par ce peuple quelque chose de radicalement nouveau, ou est-ce qu'il y avait déjà effectivement tout autour des prémices qui annonçaient ce message de la Bible? Voilà donc ce que Françoise va nous dire pendant une vingtaine de minutes. Après, ce sera Jacob, et puis ensuite, on aura le jeu traditionnel des questions et des réponses. Voilà, Françoise, vous êtes enregistrée et la caméra fonctionne pour ceux qui nous suivent à distance. Mais je préviens Isabelle qu'on n'a plus d'image.
Non, mais c'est pas grave.
Ça fonctionne ? D'accord, c'est bien. À vous, Françoise.
Eh bien, d'abord, je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie toute l'équipe de confrontation et du café qui m'ont invité. Je vous remercie. En même temps, c'est un petit peu un challenge de parler ainsi. Alors, effectivement, moi, c'est un point de vue un peu d'historienne. Je commencerai en disant que la Bible, ce n'est pas un livre. C'est un corpus avec une multitude d'auteurs, de genres et d'époques. Donc, la Bible, une nouveauté radicale, c'est déjà un petit peu une contradiction dans la mesure où la Bible est vraiment multiple. Une radicale nouveauté. Alors, bon, donc j'avais accepté de venir parler dans ce cycle de la Bible, et puis je vois arriver une invitation. On ne m'avait pas vraiment prévenu. La Bible, une radicale nouveauté. Je me suis dit, zut, là, qu'est-ce que je vais dire ? Et puis j'ai vu qu'il y avait un gros point d'interrogation, et je me suis dit, ben voilà, je peux partir de ce point d'interrogation. En tout cas, l'idée d'une radicale nouveauté, pour moi, c'est se placer sur un plan historique. Chacun prêche pour sa paroisse, hein, je veux dire, bon. Mais en ce sens qu'on se place dans une chronologie, si on est une nouveauté, c'est neuf par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on a une idée d'un développement dans le temps, et c'est aussi éventuellement neuf par rapport à ce qu'il y a autour, à un moment donné. Donc, en parlant de Bible comme une radicale nouveauté, on se situe dans le temps et dans l'espace, dans un contexte chronologique et géographique. Voilà, c'est bon, ça paraît basique, mais c'est finalement ce qu'on fait en histoire. Alors, je me suis dit que justement, l'idée de nouveauté était sans doute ce qui explique qu'on ait voulu donner la parole au début de ce cycle à une historienne. En ce sens que ça pose la question de l'ancrage historique et géographique de la Bible. Et là, on arrive un peu à une sorte d'aporie. Parce que, voilà, ancrage, bon, j'allais dire géographique, c'est à peu près clair. Ancrage historique, quand ? Il y a le temps dont la Bible prétend parler. Il y a le temps où ça a été écrit, qui n'est pas forcément le même. Donc, on se retrouve dans un sable assez mouvant. Alors, la question de l'utilisation de la Bible comme une source historique pose en soi question. Au moins, alors voilà, moi je vais vous parler de chronologie. Hein, à mon avis, il n'est pas possible de faire de l'histoire au sens hérodotien du terme. Je parle de Hérodote, qui est quand même l'inventeur du mot histoire. Hein. Et le terme d'histoire veut dire enquête. Historia, le mot grec, veut dire enquête. Donc une enquête, le parallèle, c'est quand même l'enquête journalistique, l'enquête policière, et l'enquête, donc l'histoire, est fondée sur un recoupement de témoignages. On ne peut pas faire une enquête ou même une recherche historique sans avoir plusieurs témoignages que l'on confronte. C'est ça le travail de l'historien, c'est de chercher des sources, mais de les mettre dans leur contexte et de les confronter éventuellement à d'autres sources et maintenant d'autres milieux. Donc, faire de l'histoire, pour moi, ça n'est pas possible avant le 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire d'utiliser la Bible pour l'histoire qu'elle raconte avant le 9e siècle, parce qu'avant, on n'a pas ce qui est raconté sur les époques avant. Il n'y a pas d'autres témoignages qui permettent de confronter. Ce qui veut dire, et là je le dis relativement clairement, je ne dis pas que ça n'est pas vrai, mais que pour moi, David et Salomon sont hors du champ de l'histoire. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé, mais je dis que dire qu'ils ont existé, qu'ils n'ont pas existé, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, en historien, ce n'est pas vraiment possible. À partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, donc les années 800 et tout, là, on a des recoupements. Parce qu'on a d'autres témoignages, les annales assyriennes, qui mentionnent des rois d'Israël, de Juda, des inscriptions araméennes, moabites, par exemple, enfin dans d'autres langues, et on a qui mentionnent des personnages connus par la Bible. Et puis, on a aussi une archéologie qui peut être recoupée. La démarche est aussi comparative. Il s'agit d'insérer, donc, à cette époque-là, Israël et Juda dans leur milieu et de comparer avec les peuples qui les entourent. Bon, ceci dit, se pose la question de l'écriture de la Bible. Et là, je pense que il n'y a pas de consensus très précis sur si a été écrit à tel moment, mais grosso modo, on admet qu'il y a des premiers éléments de rédaction qui ont peut-être été retouchés, mais datés du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc un peu avant l'exil, mais que l'essentiel est d'époque perse ou même hellénistique. Donc, on a une écriture du texte tel qu'on l'a maintenant, qui est relativement postérieure à tout ce qui est raconté. Or, les textes sont peut-être avant tout représentatifs de l'époque de leur écriture, plus que de l'époque de ce qu'ils racontent ou mettent en scène. C'est-à-dire qu'en racontant l'histoire du passé, on se met en partie il y a des préoccupations, il y a un contexte qui est celui des contemporains de ce qui a été écrit. Alors, la radicale nouveauté, à mon avis, elle est à concevoir dans tout ce cadre. Et là, pour l'historien, quand on commence à regarder, la Bible est avant tout un produit de son milieu. C'est-à-dire que Israël, Juda, le milieu où on a écrit la Bible, c'est un peuple comme un autre, avec plein de choses en commun avec le milieu qui entoure. Par exemple, la conception de la divinité. On a une conception que les historiens des religions appellent énothéisme ou monolâtrie. C'est pas exactement la même chose, mais pour nous, ça peut nous aider à comprendre. L'idée que il y a un dieu de la dynastie qui devient peu à peu un dieu national. Alors là, on en a des traces tout autour. Par exemple, pour prendre un exemple très proche du milieu biblique, les Moabites. Ruth, les Moabites. Hein, voilà. On est juste de l'autre côté du Jourdain, au sud de la mer Morte. Moab, il y a des rois de Moab, et ils ont un grand dieu, qui est Kamosh. Et c'est le seul qui est mentionné. Il est son dieu. Il y a même d'autres ressemblances. Il y a le grand texte que vous pourrez aller voir au Louvre, la stèle de Mécha, roi de Moab. Je vous y engage, c'est quand même un témoignage. Je vous engage à lire sa traduction. Et je vous engage, si vous avez un peu de goût poétique, à regarder la mise en scène par Victor Hugo, qui a dans la Légende des siècles un poème qui s'appelle Inscription, où il a repris la stèle de Mécha, ce qui prouve bien qu'à l'époque de sa découverte, juste avant 1870, ça a dû être un scoop qui a dû faire. Tous les journaux ont dû en parler. Et donc, voilà. Donc, ce texte, c'est l'histoire qui est relatée aussi en Deux Rois 3 de la libération de Moab par rapport à la domination israélite. On ne peut pas entrer dans tous les détails, mais on voit dans cette stèle que d'abord, il y a le roi à son dieu, et on emploie un vocabulaire qui est tout à fait parallèle à celui qu'on emploie pour les rois d'Israël. Son dieu, Yahvé, ben lui, son dieu, c'est Kamosh, et on ne parle que de lui. Et Kamosh était furieux contre son peuple, qui n'avait pas été fidèle, donc il lui envoie des malheurs, mais le roi se tourne vers son dieu, qui vient à son secours, et c'est ce qui lui permet de vaincre l'Israélite et de prendre les instruments du culte de Yahvé. Bon. Donc, on a l'idée d'un seul dieu, de culte d'un seul dieu, je n'ai pas dit qu'il y a un seul dieu qui existe, du culte d'un seul dieu, et l'idée de ce dieu, d'un récit qui est exactement le parallèle de celui de l'histoire de Théronomiste. On a la même chose en Ammon. Alors Ammon, c'est les Ammonites, c'est le lieu de la capitale actuelle de la Jordanie, Amman, avec le dieu Milcom. Donc l'idée qu'un peuple, qu'un roi, et peut-être du coup son peuple, a un culte particulier et petit à petit devenant exclusif à un dieu, n'est pas spécifique à la Bible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe qu'un seul dieu. C'est notre dieu, et les autres dieux sont les dieux, ce ne sont pas des faux dieux, mais sont les dieux des autres. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle énothéisme, monolâtrie. On a le culte d'un seul dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et d'une certaine manière, on n'a pas de formule vraiment monothéisme avant une époque beaucoup plus tardive, qui est après le retour d'exil de Théro-Isaïe ou Joël. Donc cette idée-là, pour ça, cette conception de Dieu à cette époque-là, Israël est comme ses voisins. Pas comme tous ses voisins. Par exemple, les Phéniciens, que je connais bien, eux n'ont jamais eu de monolâtrie. Il y a les questions d'Astarté, les questions de Baal, les questions de Melkarth, ils affichent un culte de plusieurs dieux. Mais autour d'Israël, c'est quelque chose qui existe. Deuxièmement, la notion d'alliance. Là aussi, on voit que c'est une formulation qu'on a dans la Bible, de l'alliance entre Dieu et son peuple, qui est la formulation des traités dits inégaux entre les Assyriens et les peuples un petit peu soumis. On a des traités, et alors les Assyriens, ben, c'est les puissants, les autres, ils sont inférieurs. Bon. Et donc le traité est un peu inégal, et finalement, ça ressemble au traité, enfin, dans sa formulation, traité entre Dieu et son peuple. Un troisième point qui montre un parallèle, le passage de la figuration de la divinité, soit sous forme zoomorphe, soit siégeant sur son trône, à une abstraction et une non-représentation de la divinité. Alors, on se dit, c'est une spécificité de la Bible, voilà, on ne représente pas Dieu. Bon, d'abord, maintenant, il est admis, il y a pas mal de traces dans la Bible, même si ça a été un peu nettoyé, mais ça reste, que dans le temple de Jérusalem, il y avait une statue de Yahvé. Une figuration, sans doute, sous forme de taureau. Et on sait aussi qu'à cette époque-là, il y avait une Madame Yahvé. Bon, mais ça, c'est une autre question. Bon. Et voilà. Et puis, on passe, et c'est la trace qu'on a dans la Bible, à l'idée qu'il n'y a pas de représentation de Dieu et que dans le Saint des Saints, tel qu'il nous est là, il y a juste l'arche sur un trône avec les chérubins. Or, à l'époque perse puis hellénistique, on a, par exemple chez les Phéniciens, un phénomène qui se développe qui est les représentations de trônes vides. Avant, on a des représentations de divinité, plutôt d'ailleurs anthropomorphe, enfin voilà. Et puis se développent ces trônes vides dans lesquels il y a un trône, il y a des sortes de sphinx, donc comme les chérubins, et puis dessus, où il n'y a rien, où il y a des sortes de stèles ou des choses comme ça. Allez voir, là encore, au Louvre. Vous avez un trône qui a été trouvé à Taïbé, près de Tyr. Vous avez ce trône avec juste deux stèles. Ça ressemble quand même furieusement aux tables de la loi sur un trône dans le Saint des Saints, dans la Bible. Donc on a cette évolution qui se fait de la même façon, d'une certaine manière, dans Israël et un peuple alentour. Alors, une fois dit ça, il y a quand même peut-être finir rapidement sur l'idée qu'il y a quand même quelques nouveautés. l'une que je verrais, c'est sur le prophétisme. Le prophétisme, là aussi, est un phénomène qu'on a dans le Proche-Orient ancien depuis... c'est le moyen d'avoir un contact avec les dieux et savoir quel est ce que les dieux disent. On en a, donc c'est un phénomène qu'on a en Mésopotamie et même le mot Nabi, veut dire prophète en hébreu, est un mot ancien. On a les Nabi-Oum, connus à Marie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc qui ont une fonction auprès du roi. On a dans... Allez voir encore au Louvre, la stèle de Zakour, qui est une stèle en araméen, 9e siècle, où le roi Zakour dit que son dieu, Baal Shamim, lui a parlé par l'intermédiaire de voyants et de devins. Bon, voilà. Donc, ce sont des personnages qui sont intermédiaires et qui le disent pour le dieu. Mais ce qui est intéressant dans la Bible, on a ce phénomène-là, on le voit bien, mais il se développe comme un phénomène qui est donc une institution à la cour du roi, mais qui peut se développer contre. Et c'est ce qui donnera le reste du prophétisme. Et là, bon, je n'ai pas le temps de vous le lire maintenant, mais un texte qui est très intéressant, c'est 1 roi 22. Vous allez voir, où le roi interroge le prophète avant de partir à la guerre, et le roi lui dit, le prophète lui dit, mais bien sûr, tu vas gagner, nanana, nanana, fais même un rite performatif pour ça. Et puis le roi lui dit, mais attends, dis-moi la vérité. Il lui dit, mais attends, tu vas t'écraser. Voilà. Donc, où il y a le prophète en situation de j'aide le roi, je suis là à son service, et je lui dis ce qu'il a besoin que je lui dise, et le prophète qui s'oppose, il passe d'un rôle à l'autre. Et je trouve que ce texte est particulièrement intéressant. Un autre point... Bon, mais il y en aurait beaucoup, mais j'ai relevé ces quelques points où il y a quand même quelque chose qui me semble nouveau et qu'on n'a pas forcément avant. C'est la question du mal. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'un test qu'on appelle en Mésopotamie le juste souffrant. Un personnage qui se dit, voilà, je ne comprends pas, il m'arrive des tas de malheurs, nanana, qu'on a beaucoup rapproché, bien entendu, de Job. Et donc voilà. Mais ce qui a été, c'est d'une certaine manière un texte que par erreur on a appelé le juste souffrant. C'est-à-dire que la question n'est pas qu'il n'a rien fait de mal. La question est qu'il ne sait pas quel mal il a fait. Il se demande pourquoi. Mais il ne dit pas, nulle part il est dit que c'est quelqu'un de particulièrement complètement juste et qu'il ne mérite pas. Il ne sait pas et il attend de savoir quel est le mal qu'il a fait et qui explique ce qui est arrivé. Donc, ce texte est une question autour de l'identification du mal qui a été fait et aussi de la rédemption. Ce qui n'est absolument pas le problème de Job, où le propos, c'est un personnage qui reçoit tous les malheurs du monde, on ne pose pas la question de savoir si je sais pas plus, mais de la persistance de la foi dans le malheur. Voilà. Donc, je pense que là, je prends un petit peu comme un contre-exemple de ce qu'on avait dit, comme la Bible, c'est la même chose que Mésopotamie. Là, on a un exemple où, en fait, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas question simplement de rédemption d'un pécheur qui reçoit le mal, qui se rend compte qu'il a fait du mal et qui, du coup, voilà, qui est toute l'histoire, effectivement, d'Arthurum, mais l'idée de est-ce qu'on peut garder la foi en Dieu même quand on est la victime d'une sorte de mal absolu. Et voilà, donc c'était un petit peu deux exemples que je voulais citer où je pense qu'il y a on pourrait en prendre d'autres, mais qu'il y a effectivement de la nouveauté dans la Bible. Mais je pense que là, et je reviens un petit peu au centre de mon propos, c'est une question de chronologie. C'est-à-dire qu'on a au départ, effectivement, un peuple qui est comme les autres, qui s'insère dans ce... et donc une conception qui est celle des peuples du Proche-Orient. Et puis, peu à peu, mais sans doute à une deuxième époque, et sans doute beaucoup plus, effectivement, après le retour de l'exil, le développement de quelque chose de nouveau. Mais c'est certainement aussi ça, parce qu'à ce moment-là, se développe quelque chose de nouveau, que ça s'est maintenu. Parce que les autres, eh ben, une fois que... Quand on a un culte qui est lié à un peuple, qui est lié à un roi, qui est lié à une situation politique, le jour où celle-ci disparaît, tout tend à disparaître. Voilà.
Merci. Merci à vous, Françoise Briquel. Voilà, merci. Donc, vous aurez des questions à poser tout à l'heure. Donc maintenant, Jacob Rokossinski également pour une vingtaine de minutes. Alors, Moïse l'insurgé, et non pas l'émancipé. Mais vous parlez beaucoup d'une foi émancipatrice dans votre livre. Hein. Le Dieu du peuple élu, c'est un Dieu émancipateur, selon vous. C'est un Dieu qui n'est pas un Dieu au service des puissants et des rois, précisément. C'est un Dieu qui aide le pauvre, qui chasse les puissants de leur trône, hein, selon les paroles du Magnificat, et qui élève les humbles. Et donc, c'est aussi ça qui vous a beaucoup frappé dans la lecture de la Bible et aussi dans le personnage de Moïse, dont vous dites aussi d'ailleurs, même si vous n'êtes pas historien, qu'on ne sait pas exactement non plus s'il a vraiment existé. C'est peut-être comme Salomon ou David, vous disiez, François, tout de suite. En tout cas, Moïse, l'insurgé, et il semble quand même à vous lire que, pour votre part, en tout cas autour de Moïse, vous défendez la thèse qu'il y a quelque chose quand même de radicalement nouveau qui surgit à ce moment-là autour de Moïse dans l'histoire des humains. Donc on vous écoute pour une vingtaine de minutes.
Écoutez, d'abord, merci beaucoup et merci aussi pour votre invitation. Je suis très très heureux de découvrir ce lieu, de découvrir les deux groupes qui sont...
Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. Excusez-moi, j'ai introduit votre propos sans dire... Vous êtes enseignant, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg. Voilà, c'est ça, hein. Peut-être c'est quand même intéressant à dire dans votre itinéraire personnel, je crois, parce que si je trouve, hein, vous êtes de tradition, enfin vous avez un héritage juif dans votre famille, mais vous avez eu des engagements politiques assez radicaux intéressant.
C'était au siècle dernier.
Voilà, absolument, du côté du maoïsme, à l'époque où les intellectuels français, les grands maîtres, comme vous dites, que vous admiriez, penchaient de ce côté-là. Et puis, j'emploie le slogan, mais je ne sais pas si vous vous retrouvez tout à fait là-dedans. Vous avez fait un itinéraire qui est quand même, je trouve, très sympathique, de Moïse, je dirais, à Mao, et retour, en quelque sorte. Et retour, voilà. C'est le retour aussi qui est sympa. Voilà, hein. Voilà, donc tout ça pour vous situer. Et donc, vous avez écrit un livre il y a quelques années sur le djihadisme. Vous m'avez expliqué également que pour vous, il y a eu... Le génocide du Cambodge qui a été déterminant dans l'évolution de votre pensée, hein, autour d'un certain culte de la mort qu'il fallait à tout prix essayer de penser et de détruire. Voilà. Et donc ce livre Moïse l'insurgé qui vient de paraître l'an dernier au CERF. On n'en a pas d'exemplaire en vente ce soir parce que l'édition était épuisée, mais Jacob vient de me dire qu'il a été sonné chez Auxerre, chez les Dominicains, et que donc le livre va être réédité. Donc vous pourrez le trouver dans les temps qui viennent, sans difficulté, dans les bonnes librairies. J'ai trop parlé, à vous Jacob, pour 20 minutes.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre invitation. C'était... Je veux dire qu'en écrivant ce livre, je me demandais à qui je m'adressais. Bon, on écrit toujours pour un peuple à venir, comme disait Deleuze, mais je me disais, ok, les juifs de gauche, au fond, il n'y a jamais eu vraiment. Les juifs qui étaient vraiment de gauche avaient rompu avec la religion, modèle de Spinoza. Les chrétiens de gauche, il semble bien qu'il y en a eu pas mal à une certaine époque, mais ils ont disparu. Alors, pour qui est-ce que j'écris ce livre ? Mais finalement, je perçois que non, vous n'avez pas disparu, vous êtes là. Il y a ce peuple... chrétien de gauche qui est là présent et je me sens un peu moins seul. Par les temps qui courent, c'est pas inutile. Bon. Alors voilà, oui, alors je vous remercie beaucoup de votre présentation. Bon voilà, rentrons, on a peu de temps, donc je rentre dans le vif du sujet. Je vais m'opposer bien sûr à ma confrère, à mon collègue, parce qu'on est là pour la discussion, on est là pour le débat.
On se confronte.
Voilà, donc il faut se confronter. Donc je voudrais insister, dans mon livre, j'insiste, au contraire, sur la nouveauté vraiment radicale de ce qui a été opéré. Par quelqu'un, a-t-il existé, on ne sait pas, mais celui que la tradition désigne sous le nom, sous le surnom, c'est peut-être un surnom, un égyptien peut-être, de Moïse. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. Bon, c'est pas une création ex nihilo, c'est pas une création à partir de rien. Vous avez raison, vous les historiens, d'insister sur l'ancrage de la Bible dans le Moyen-Orient de cette époque-là, sur les continuités qu'il peut y avoir entre la civilisation du judaïsme ancien et celle de, bon, de Canaan, d'Aphénicie, de Babylone. J'ajouterai également l'Égypte, qui, à mon avis, imprègne fortement toute une série d'aspects. Et néanmoins, il y a rupture. Il y a une rupture très forte, essentielle. Parce que, sauf erreur de ma part, tous les dieux, vous l'avez rappelé, tous les dieux de ces peuples sont des dieux d'une monarchie sacrée. Sont des dieux dont la fonction est de sacraliser le pouvoir du roi. Un roi qui est présenté souvent, pas toujours, mais souvent, bon, c'est en Égypte, comme le fils de Dieu et comme l'image du Dieu. Fils de Dieu, image de Dieu, ça évoque peut-être quelques échos. Bon, mais ça, c'est égyptien. C'est une religion pharaonique. C'est la religion des pharaons. Le pharaon est le fils du dieu soleil Ra. Et lorsque le dieu s'adresse à Pharaon, il lui dit « Je suis à Ramsès ». C'est un discours au cours d'une bataille un peu risquée, enfin, entre les Égyptiens et les Hittites. Le dieu apparaît au pharaon Ramsès et lui dit « Je suis Amon Ra, le dieu de Thèbes, ton père, je vais te donner la victoire », etc. Donc c'est des dieux qui consacrent le pouvoir des rois, le pouvoir des puissants. Bon. Or, le dieu de Moïse, le dieu d'Israël, c'est tout le contraire. C'est un dieu qui, lorsqu'il s'adresse au mont solennel où il se révèle au Sinaï, bien sûr, c'est des textes qui ont été écrits des siècles après, bien sûr, ils ont été retravaillés, mais il y a comme un legs, il y a comme une tradition là qui se dit à travers ces textes. Et que disent-ils? Ce dieu se présente au contraire comme le dieu libérateur. Il ne se présente pas comme le créateur du monde, il ne se présente pas comme le père, ni comme le roi. Et vous avez raison, il ne se présente certainement pas comme le dieu unique, alors que les autres seraient des faux dieux. Non, je suis, nom imprononçable, disons le Seigneur, pour faire vite, c'est ce qu'on appelle Yahvé. Je suis donc le Seigneur, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà, il se présente essentiellement comme le libérateur d'hommes et de femmes qui ont été asservis, opprimés. C'est sa définition fondamentale. Et ça fait déjà de celui une sorte de hapax, une singularité absolue dans toutes les religions de l'époque et de la région. Et bon, au-delà de la région, enfin, je veux dire, ni Zeus, ni Jupiter, ni Shiva et Vishnu ne se présentent comme le dieu qui libère les opprimés. Vous me direz, bon, ok, mais ça reste le dieu d'un peuple, un dieu qui a libéré les Hébreux, asservis en Égypte, etc. Oui et non, enfin, très rapidement... une dimension qu'on appellerait universaliste se profile. Voilà, bon, je pense à un très très beau texte du prophète Joël, dans lequel Dieu parle et il dit « Un jour je répandrai mon souffle sur toute chair, sur les asservis je répandrai mon souffle, tous ceux qui invoqueront mon nom seront sauvés. » Alors c'est intéressant, il met en avant les asservis, donc les esclaves, les opprimés, etc. Et en plus il dit « Bon, je répandrai mon souffle sur toute chair. » Je pense que ça implique aussi, il y a de fortes... présomption que ça implique aussi des chairs non humaines, hein, des chairs animales, c'est-à-dire les animaux qui ont survécu au déluge et qui sont aussi nos partenaires dans l'alliance de Noé, la toute première des grandes alliances. Bon, et ce dieu est d'ailleurs désigné dans certains passages de la Bible, en nombre je crois, comme le dieu des souffles de toute chair, de toute chair. Bon, je ne vais pas en faire un dieu écolo, ce sera un petit peu anachronique, mais c'est très intéressant de voir cela aussi. Un dieu qui répand son souffle sur toute chair et d'abord sur les asservis. Bon, il y a quelque chose de très singulier, très étonnant. Alors oui, bien sûr, il y a des similitudes, il y a des continuités. Le thème de l'alliance que vous avez évoqué, c'est très intéressant. Effectivement, depuis une lointaine antiquité, avant même les Assyriens, hein, il y a des traités d'alliance entre monarques, par exemple entre Égyptiens et Hittites, puisque je viens de les évoquer. Ça met en scène deux potentats, enfin deux monarques, qui sont des monarques sacrés, fils d'un dieu en général, et... Leurs dieux, au pluriel, sont invoqués comme les garants d'alliance. Mais l'alliance se passe entre deux rois, entre deux puissants. Passons maintenant à la structure de l'alliance telle qu'elle est évoquée dans la Bible. C'est tout autre chose. C'est une alliance entre un peuple tout entier, un peuple sans roi, il n'est pas encore question de roi, et un dieu. Alors la formule de l'alliance, là-dessus les historiens sont très utiles. J'ai un grand respect pour les historiens. Les historiens ont démontré... que la formule de l'alliance est quasiment calquée sur celle des alliances assyriennes ou d'autres alliances plus anciennes. Certes, mais son contenu est totalement nouveau. Totalement nouveau. Parce qu'on a affaire à une alliance qui engage un peuple et un dieu sans aucun roi. Et comme tout le peuple passe alliance, y compris, dit le texte du Deutéronome, vos femmes, vos enfants, et aussi votre serviteur étranger, celui qui coupe ton bois, celui qui puise ton eau, donc aussi l'esclave ou le serviteur étranger, Bon, ils sont tous, vous avez tous rentré aujourd'hui dans l'Alliance, dit le texte. Texte tardif, sans aucun doute, mais texte qui témoigne quand même de quelque chose de tout à fait incroyable. Hein, une alliance opérée par un peuple tout entier, et non pas par un autocrate, par un monarque, et une alliance qui s'ouvre aux femmes, oui, aux enfants, aux esclaves, et même aux esclaves étrangers, aux travailleurs immigrés, asservis, etc. Donc une alliance qui a déjà une dimension d'universalité, qui dépasse d'une certaine manière la simple assignation à une ethnie. Bon. Donc ce n'est pas simplement un dieu ethnique, c'est un dieu qui, d'une certaine façon, s'adresse à tous les opprimés. Donc là, il y a quelque chose d'une nouveauté radicale, là, je maintiens. Et ça, on pourrait prendre une série de mythes bibliques. Évidemment, bon, il y a très peu de temps, il y a à peu près un siècle et demi, qu'on commence à connaître les mythologies, bien les mythologies égyptiennes, babyloniennes, cananéennes, etc. Donc, c'est des mythes qui ont été recouverts et écrasés depuis des millénaires par la puissance des mythes bibliques qui sont imposés. Mais lorsqu'on les confronte, on découvre des similitudes et des ruptures très intéressantes. Je prends un exemple. Le mythe de la création de l'homme chez les Mésopotamiens. C'est le poème d'Atrahasis qui remonte au XVIIIe siècle avant notre ère. Bon, quelque chose de très très ancien, antérieur d'un millier d'années au moins à la rédaction de la Bible. Alors bon, il y a des dieux supérieurs et des dieux inférieurs. Les dieux inférieurs travaillent au service des dieux supérieurs. Un jour, ils se révoltent, c'est la grève. Bon, ils ne sont pas contents, ils en ont marre de travailler au service des dieux supérieurs. Et ils décident de créer un être encore plus inférieur qui fera le sale boulot des dieux. Et donc, ils créent l'homme à partir de la glaise, comme chez nous, comme Adam, en la mélangeant au sang d'un dieu inférieur pour que dès le départ, dès sa naissance, il soit voué à la servitude. Et là, ils chantent tous ensemble, créons l'homme, qu'il accomplisse la besogne des dieux. Voilà. Donc l'homme créé pour servir. Bon. L'antithèse exacte du mythe de la création d'Adam, lui-même créé à partir de la glaise, mais pour dominer la terre et les créatures de la terre. Et il n'est pas dit du tout qu'il est créé pour servir Dieu. Regardez le texte, ce n'est pas dit du tout. Bon. Donc là, il y a une reprise d'un mythe plus ancien qui dit le contraire. Qui dit le contraire. Ce que j'appelle des contre-mythes. La plupart des mythes bibliques sont en fait des contre-mythes. C'est-à-dire que c'est des constructions qui reprennent des mythes antérieurs, avérés par l'histoire et l'archéologie, pour les renverser, pour leur faire dire le contraire. On pourrait en trouver beaucoup d'autres exemples. Beaucoup d'autres exemples. Bon, je le retourne, je ne vais pas m'apesantir, mais je pense qu'on peut le montrer non seulement sur les mythes, mais également sur toute une série de récits qui se veulent historiques. Les héros fondateurs des peuples, quels qu'ils soient, sont toujours présentés comme des sortes de surhommes doués d'une vigueur physique et sexuelle aussi très remarquable. Ce sont des héros guerriers, en général fils de Dieu, fils du Dieu suprême, d'une manière ou d'une autre. Ça va jusqu'à Romulus et Rémus, enfantés par le dieu Mars. Bon, bien. Dans le cas de Moïse, on a affaire à quoi ? On a affaire à un homme, certainement, c'est pas le fils d'un dieu. Un homme, c'est un peu ce qui m'a intrigué dans la figure de Moïse, un homme sans nom, un homme dont on ne connaît pas le nom des parents, dont on ne connaît pas le nom de naissance, hein, puisque bon, le texte dit, un homme de la tribu de Lévi vient, il prend une femme de la tribu de Lévi, elle enfante un fils, elle le voit, il est beau. Alors, comme généalogie, c'est un peu limité, n'est-ce pas ? C'est un peu limité, alors que tous les héros, y compris les héros bibliques, de Abraham jusqu'à Jésus, on commence par faire une très longue généalogie qui remonte jusqu'à un ancêtre prestigieux, Adam dans le cas d'Abraham, Abraham dans le cas de Jésus. Pour Moïse, c'est le blackout, silence, né sous X. Et en plus, son nom n'est pas donné. Le nom de Moïse va être crié longtemps après, quand il eut grandi, lorsqu'il a été adopté par la fille du Pharaon, etc. Bon, je passe sur cela. Donc un personnage tout à fait étonnant, hein, qui est enterré on ne sait pas où, personne ne sait jusqu'à aujourd'hui où est son tombeau, donc l'antithèse du pharaon, puisqu'on sait assez bien où sont les tombeaux des pharaons, les pyramides, c'est fait pour être vu. Bon, un homme dont, si on regarde le texte de plus près, le texte semble suggérer qu'il était un enfant de l'inceste, hein, que lorsqu'on fait une généalogie, c'est pour dire, un peu plus tard dans le texte, c'est pour dire que son père avait épousé sa tante. C'est donc un enfant d'inceste. Un homme dont on suggère qu'il était à mot couvert, qui était atteint d'une maladie de peau, qui était traduite en un terme hébreu, qui était traduit par la lèpre, donc un impur extrême. Donc, tout le contraire du héros mythique glorieux qui fonde la dynastie des rois. Un homme qui est une sorte de paria, de maudit. Bon. Là, c'est très intéressant, si vous voulez. Donc, on a affaire à un récit qui est un récit tout à fait original, tout à fait unique, singulier, qui met l'accent bon, sur l'émancipation des esclaves. Et ça, on n'en trouve aucun autre dans toute la tradition. Bon, vous connaissez le passage du début du premier livre du prophète Samuel, le premier livre de Samuel, dans lequel Samuel, bon, lorsque les Hébreux demandent un roi, comme les grenouilles de la fable, hein, Samuel leur fait un discours incroyable, qui est une critique de la monarchie, de sa dimension prédatrice, oppressive. Vous voulez un roi, il prendra vos fils et il en fera ses esclaves, il prendra vos filles pour les mettre dans son harem, il vous écrasera sous les impôts et les corvées, et il fera de vous ses esclaves. Et ce jour-là, vous prierez le Seigneur, et le Seigneur ne vous répondra pas. Mais le peuple continue de demander un roi, bon, passons. Mais alors ça, pour trouver un discours qui soit une critique radicale de la monarchie, il faut attendre environ 25 siècles. Je pense au discours de la servitude volontaire de la Boétie. On trouve ça dans aucun texte d'aucun peuple, d'aucune culture de l'Antiquité. Alors voilà, bon, comment rendre compte d'une telle nouveauté? Alors je me suis posé la question, bon, au départ, en commençant ce livre, parce que je ne suis pas historien, bon, je suis philosophe, je m'étais dit, je ne vais pas lire les historiens, les archéologues, rien du tout, je resterai dans le texte. Puis bon, le texte a commencé à me solliciter. J'ai dit, mais d'où vient cette nouveauté-là? Comment est-ce que a pu surgir quelque chose de totalement différent de toutes les cultures de la région et de l'époque, et de toute l'Antiquité, en fin de compte. Je passe même sur les innovations sociales, le Shabbat, le septième jour, jour de repos, où peuvent se reposer aussi les serviteurs, les esclaves, et même les animaux, pour qu'ils reprennent leur souffle, ton asservi et ton âne, etc. Ça faisait hurler de rire les Romains. Il y a des passages de Sénèque très amusants où il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple qui perd un jour sur sept de sa vie et qui accepte que ses esclaves se tournent les pouces pendant une journée entière, n'importe quoi. Bon. Voilà, bon, là aussi, c'est très étonnant. Et également aussi les prescriptions demandant d'accueillir l'étranger comme s'il était d'ici, de l'aimer comme soi-même, parce que vous avez été vous-même étranger au pays d'Égypte. Ben, je dirais que là, il y a une nouveauté radicale encore pour nous aujourd'hui. Quand on voit les lois que certaines personnes essaient de faire passer aujourd'hui, apparemment ça a été censuré cet après-midi, j'en suis très content. Et voilà, l'accueil hospitalier des étrangers, l'injonction d'aimer l'étranger comme soi-même, ça a une certaine nouveauté encore aujourd'hui, ça a une certaine radicalité. Et je pense qu'on a de quoi être fiers de cette tradition-là, hein, qui va à l'encontre de la xénophobie dominante de la plupart des peuples de l'histoire, xénophobie que ça croit encore massivement aujourd'hui en Occident, hélas. Y compris chez les gens qui invoquent les racines chrétiennes de l'Europe pour mieux refouler les migrants dans la Méditerranée. Je vais faire une parenthèse. Donc d'où vient cette nouveauté-là? C'est une question que je me suis posée de plus en plus. Je me suis dit, bon, il faut quand même sortir des textes, une formule un peu provocante qui m'a été reprochée amèrement. J'ai dit qu'il était temps de sortir du ghetto des textes. Ce que je veux dire par là, de l'éternel commentaire, de commentaire, de commentaire, de commentaire, en quoi a consisté l'essentiel de la tradition juive. Je me suis dit, il fallait comme voir du côté des historiens et des archéologues si on a des traces de quelque chose. Donc d'un événement réel, historique, qui aurait eu lieu et qui expliquerait cette nouveauté radicale des textes qui en rendent compte. Même si les textes ont été écrits certainement plusieurs siècles après. Mais en tenant compte d'une certaine tradition qui avait été transmise oralement. Les textes ont pu être écrits très tard, mais ils ont mis par écrit une tradition qui devait circuler depuis longtemps, sans aucun doute. Bon, alors que nous apprennent les historiens? Et là, pardonnez-moi, quand vous avez, là, un peu, je suis en désaccord total, quand vous avez dit qu'on ne peut rien dire de sérieux avant le 9e siècle. Non, excusez-moi, on ne peut pas dire ça. On sait de sources sûres, par exemple, bon, une chose qui est très claire, c'est qu'il n'y a pas eu d'exode massif de 600 000 ou 700 000 asservis hébreux quittant l'Égypte avec leurs femmes, leurs enfants, leurs moutons, etc., pour traverser le Sinaï vers Canaan. Bon. On sait que ce n'est pas possible, ça n'a jamais eu lieu. Bon. Pourquoi? Parce que les archives égyptiennes n'ont pas gardé la trace. On a des textes égyptiens anciens, hein, bon, dans lesquels une sorte de commissaire de police envoie une brigade pour récupérer une dizaine d'esclaves qui sont enfuis à travers le Sinaï. Si on a déjà des traces d'une dizaine d'esclaves enfuis, je pense qu'on aurait eu des traces de 700 000 esclaves s'en allant. Or, il n'y en a pas. Bon, ça, tous les historiens le reconnaissent. Par contre, on a des traces d'autre chose qui est très intéressant. On a des traces, bon, on sait maintenant, mais de sources sûres, c'est incontestable, que le pays de Canaan, donc en gros, ce qui va de Gaza jusqu'au sud de la Syrie, pour aller vite, hein, ce pays était une colonie égyptienne depuis la haute antiquité, depuis environ le 17e, 18e siècle. Bon, alors là, du coup, en découvrant ça, bah, je suis un petit peu tombé des nues. Je me dis, bon, là, il y a un problème. Bon, voilà, imaginez Jean Valjean, le héros des Misérables de Hugo, qui s'arrache du bagne de Toulon avec quelques compagnons d'infortune, qui, à travers un exode douloureux, à travers, disons, l'Espagne, la Méditerranée, le désert d'Afrique du Nord, arrive enfin en terre promise, en Algérie française. On le remet aussitôt dans ses chaînes. Donc ça ne va pas. C'est ce que j'appelle l'argument de Jean Valjean. C'est un argument de facto, mais il est incontestable. L'histoire des Hébreux quittant massivement l'Égypte sous la conduite de Moïse pour entrer dans une terre promise où coule le lait et le miel, où ils seront libres, etc., ça ne tient pas la route parce que la terre promise était une colonie égyptienne. Donc ça ne s'est pas passé comme ça. Bon. Alors, quand je dis ça, là, il y a 10 jours, j'étais dans une synagogue parisienne, dans un groupe d'études. Il y a des noms d'oiseaux qui ont volé. On n'apprécie pas ce genre de recherche. Bon, on a aussi des traces d'autres choses. Hein, l'histoire là-dessus, on a quand même des documents très abondants de l'âge de
la Bronze. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait aucun. Des choses. C'est un contexte. Oui. Mais on n'a pas, justement, aucune trace d'un des événements mentionnés dans la Bible. C'est
certainement.
Ce que je voulais dire.
Bon, on est d'accord là-dessus.
Oui, on est d'accord.
Contre, on a des traces d'autres choses.
On va vous rendre la parole, François,
On a des traces de quelque chose.
Ça demande une réponse, effectivement.
On a des traces de quoi? Ben, on a des documents, encore une fois incontestables, du XIVe siècle, l'époque d'Akhenaton, donc le fameux Akhenaton, l'inventeur du monothéisme. Et ce sont des petits rois de Canaan, de Byblos, de Jérusalem, de Sidon, d'autres villes, qui envoient des lettres au pharaon pour se plaindre, pour dire « c'est plus possible, on a peur, il y a une grande insurrection, il y a un soulèvement ». On a discuté tout à l'heure pour savoir si le nom Anastasis, qui est le nom d'un des deux groupes qui nous a invités ici ce soir, le groupe du Café Dorothée. Est-ce qu'Anastasis, ça signifie que résurrection ou aussi insurrection? À voir. Bon, en tout cas, il y a une insurrection. Ça, c'est clair, les textes le montrent de manière incontestable. Une insurrection menée par des populations assez difficilement cernables, qui portent un nom intéressant, il s'appelle Abirou. Voilà, et là, les textes disent, oui, les Abirou ont soulevé les paysans, ils ont soulevé les esclaves, ils prennent d'assaut les villes et ils tuent les rois comme des chiens. Ils tuent les rois comme des chiens. Bon, et donc les rois de la région, qui sont des vassaux du pharaon, appellent le pharaon à l'aide, en vain semble-t-il. Donc il y a eu ces insurrections, c'est un fait historique. Maintenant, si on se situe un peu plus tard, si on arrive vers le 12e, 11e siècle, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que toutes les riches cités de cette région, la région qui aujourd'hui est pour aller vite Israël, toutes ces riches cités, Hatzor, comme on parle la Bible d'ailleurs, Hatzor, Lachish, Megiddo, etc., toutes les unes après les autres brûlent, sur un laps de temps assez long, plus d'une cinquantaine d'années, presque un siècle. Hein. Elles brûlent les unes après les autres. Ça c'est indéniable, on a des traces archéologiques. Alors, on a longtemps cru qu'elles ont été brûlées par la victorieuse armée de Josué, qui n'a sans doute jamais existé. Après, on a dit non, c'est des envahisseurs, les peuples de la mer. Bon, je découvre qu'une archéologue israélienne a entrepris des fouilles d'une de ces cités, qui est nommément citée dans le livre de Josué, la grande ville Hatzor, dans le nord de la Galilée. Bon, et qu'est-ce qu'on dit? Les fouilles prouvent quoi? Elles prouvent que la cité n'a pas été prise d'assaut par des envahisseurs extérieurs, parce qu'on ne trouve aucune arme, aucun squelette auprès des murailles. La cité a brûlé, mais pas tout entière. Ce qui a brûlé, c'est le palais royal, les demeures des nobles et le grand temple. Et le grand temple, lorsque les archéologues découvrent qu'avant d'être incendié, on l'avait désacralisé, on avait bouché ses issues, renversé et décapité les statues des dieux. À peu près comme les sans-culottes l'ont fait des statues des rois sur le portail Notre-Dame en 93. Bon, conclusion de cet archéologue, conclusion qui vaut ce qu'elle vaut, c'est discuté. Les archéologues, ce n'est pas une science exacte. Mais sa conclusion, c'est que cette ville de Hatzor n'a pas été victime d'une invasion extérieure, mais de quelque chose qui ressemblait à une révolution. Une insurrection des basses classes, qui, comme ça se produit lorsqu'il y a une insurrection, Anastasis, met le feu au palais royal, aux demeures des nobles, au grand temple, et décapite les statues des dieux. Même chose à Megiddo et peut-être aussi à Lachish. Donc ce que nous apprend l'histoire, l'archéologie, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très étonnant, de très intéressant. On a peut-être d'autres équivalents dans d'autres régions du monde. Hein. J'en parle un peu dans mon livre. Il y a un chapitre qui s'appelle Moïse en Indochine, histoire de faire un peu d'anthropologie comparée. Mais quelque chose qui n'est pas du tout un exode tel que la Bible décrit, c'est-à-dire une migration spatiale d'un peuple sortant d'Égypte pour aller vers Canaan, ce qui n'a aucun sens, comme je viens de le montrer. Non, on a affaire non pas à un déplacement spatial, mais à une mutation historique. Le changement d'un régime fondé sur l'oppression et l'esclavage, hein, les gens réduits en esclavage par les vassaux des pharaons, qui sont renversés par une sorte de soulèvement, et qui donc instaure autre chose, un autre monde. Donc oui, les Hébreux sont bien sortis de la maison de servitude pour entrer en terre promise. Simplement, la terre promise et la maison de servitude, c'était le même endroit. La maison de servitude, c'était Canaan sous la férule des pharaons et de leurs vassaux. Et la terre promise, c'est la même terre libérée de l'oppression par une série d'insurrections. Et là, je rattache ça à ce qu'on sait des soulèvements des Abirous. Abirou, c'est un mot intéressant. Même racine que Ivrit, qui veut dire hébreu. Bon, c'est discuté par les historiens, mais on peut aller dans cette direction-là. Donc les Hébreux sont peut-être tout simplement ceux qu'on appelait autrefois les Abirous, c'est-à-dire des rebelles dehors la loi, qui se révoltaient contre l'oppression et qui tuaient les rois comme des chiens. Bon, une fois qu'on a admis cette hypothèse, c'est une hypothèse qui, comme toutes les hypothèses, là je suis sorti de ma zone de confort, je fais appel à l'histoire et à l'archéologie, donc ça, c'est fragile. Bon, demain matin, on peut très bien découvrir dans les sables du Néguev ou ailleurs, ou du Sinaï, une stèle ou un tesson de poterie qui montre que ce que je dis est totalement stupide, et que c'est faux. Ok, je ferai un autre livre, ou d'autres le feront. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien découvert d'autre. Tous les indices de l'archéologie concordent pour montrer qu'il y a eu quelque chose comme une insurrection conduite par des Abirous, des sortes de proto-hébreux, qui ont renversé la domination des rois et des puissants. Et comme ils décapitaient les statues des dieux, on peut supposer que cette révolution politique et sociale s'est accompagnée également d'une révolution religieuse. Ce qui est tout à fait compréhensible, je termine, dans la mesure où les dieux, comme je l'ai dit, les dieux de cette région du monde et de l'Antiquité, étaient dieux qui sacralisaient la monarchie, donc la hiérarchie telle qu'elle existe. Si on veut renverser les rois, on n'a pas intérêt à adorer un dieu qui considère que le roi est son fils bien-aimé. Bon, il faut donc adorer un autre dieu, un dieu qui dit « je suis le libérateur des opprimés ». J'ai entendu la plainte qui monte de la servitude et je vous envoie un libérateur. Voilà. Donc révolution politique, sociale, religieuse, dont les traces se laissent lire dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la rédaction de contre-mythes qui renversent les mythes anciens dans le sens d'émancipation, et bon, dans la description d'une société sans roi, sans état, fondée sur une alliance dans laquelle les hommes sont tous égaux. Donc une alliance que j'appelle théodémocratique, si vous voulez, où tous les hommes se soumettant également à un seul dieu, créent une société où aucun homme n'a plus de pouvoir sur aucun autre. Voilà, donc les pièces du puzzle s'agencent, et la nouveauté radicale de la Bible s'explique d'une certaine manière. Elle renvoie à un événement historique qui a été déformé en partie par la tradition, mais pas totalement. Et donc, j'ai tenté de recoller un petit peu les morceaux, et les choses me semblent s'expliquer. Et ça ne me paraît pas contradictoire avec ce que vous avez dit en dernière analyse, sur un petit peu œcuménique en conclusion. Parce qu'on n'a pas parlé de la même chose. Vous avez parlé de la date de rédaction des textes de la Bible, qui est effectivement tardive. Moi, j'ai essayé de remonter en amont pour essayer de travailler sur les sources orales qui ont fini par être mises par écrit, sans doute au moment de l'exil à Babylone, un peu avant, un peu après, ou beaucoup plus tard, etc. Et ces sources orales, à mon avis, on peut les confronter aux données de l'archéologie et on trouve quelque chose de très intéressant. La première révolution plébéienne ou populaire de l'histoire humaine, ou dont l'histoire a gardé la trace, et qui a produit quelque chose, qui a créé quelque chose de nouveau, une nouvelle foi, une nouvelle croyance, en rompant radicalement avec les croyances de leur époque.
Merci. Voilà. Merci, merci, monsieur Gozinski. Voilà. Donc,